Chers bien-aimés, nous allons aujourd'hui parler de la vie chrétienne selon la Bible. Plusieurs personnes ne trouvent aucune difficulté à recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ces mêmes personnes ont beaucoup de difficultés pour vivre selon la volonté de Dieu. Plusieurs chrétiens pensent que s'ils vivent selon la volonté de Dieu, leur vie sera maussade, sans aucune vraie joie. D'autres encore veulent bien vivre selon la volonté de Dieu, mais ils ne savent pas comment. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Comment peut-on la vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu et qui soit agréable à nous, enfants de Dieu? Pour bien répondre à toutes ces questions, il est important que nous puissions étudier comment le Seigneur Jésus-Christ a vécu sa propre vie quand il était sur la terre. La vie de Jésus n'était pas facile. Jésus n'avait pas de maison. Il ne possédait presque rien de bien de ce monde. Il était souvent rejeté, ridiculisé, brimé et maltraité. Bien qu'il ait accompli plusieurs miracles, bien qu'il ait guéri des malades, délivré des personnes possédées par le diable, pardonné les pécheurs et consolé les faibles et les pauvres, plusieurs personnes continuaient toujours à le haïr et cherchaient des voies et moyens pour le tuer. Même les membres de sa propre famille biologique ne le comprenaient pas. Judas, un de ses disciples, finira par le trahir. Pierre, l'un de ses apôtres le plus proche, l'avait renié. Tous ses disciples l'avaient déserté pendant sa passion et sa mort. Comme notre Seigneur, la vie de nous, ses disciples, ne peut être facile. Parce que le diable qui utilisait des personnes humaines pour s'opposer au Seigneur Jésus-Christ, utilise la même stratégie pour s'opposer à nous qui sommes les disciples de Jésus. Certes, la vie chrétienne n'est pas que souffrance, elle est surtout bénédiction et grâce divine. Mais au lieu de ces bénédictions et grâces, Dieu permet la peine et la souffrance à cause de son nom. Pour nous fortifier, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait la promesse solennelle selon laquelle il serait toujours avec nous, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur Jésus-Christ a promis d'être à nos côtés pendant notre marche spirituelle avec lui. Il est et sera avec nous pour nous pardonner quand nous tombons dans le péché. Il est et sera avec nous quand nous traversons les différentes épreuves de la vie. Le septième leçon que nous allons étudier présente les défis et les bénédictions de la vie chrétienne. Quel est le défi que le Seigneur Jésus-Christ lance à ceux et celles qui veulent le suivre? Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de lui abandonner tout dans notre vie et de lui donner le commandement de notre vie afin qu'il nous enseigne comment vivre selon la volonté de Dieu. La Bible dit dans Marc 8, 34 à 35, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Marc 8, 34 à 35. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Luc 14, 27. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et que celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37 à 38. Pourquoi alors devons-nous suivre ou encore vivre pour le Christ? Nous ne pourrons jamais payer pour ce que le Christ a fait pour nous. Mais quand nous nous humilions devant lui, notre cœur nous pousse à vivre d'une manière qui lui donne gloire, afin que le monde voie la manifestation de sa puissance salvatrice à travers notre mode de vie. En outre, les bénédictions spirituelles et matérielles que Jésus nous accorde ici-bas et au ciel nous encouragent à vivre d'une manière qui lui est agréable. Pourquoi se rebeller contre un Sauveur qui est un Seigneur si tendre et si aimant avec le Christ? Notre avenir terrestre et éternel est assuré. Aucun plaisir de ce monde ne peut nous satisfaire réellement comme l'amour de Dieu manifesté en Christ. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, soit sainte, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1 à 2. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean 14, 23. Qui donne la puissance de vivre la vie chrétienne? C'est Dieu lui-même qui nous donne sa puissance pour vivre la vie chrétienne. Nous sommes incapables de nous-mêmes de vivre d'une manière qui puisse plaire à Dieu. Dieu nous donne son Saint-Esprit qui habite en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous qui donne la puissance de vivre selon la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hébreux 13, 20 à 21. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est en train d'agir dans notre vie? Notre vie doit témoigner de la présence de Dieu en nous. Si notre vie n'est pas différente de celle des non-croyants, notre témoignage et prédication n'auront aucun effet. En effet, les non-croyants sont plus impressionnés par notre comportement que par nos paroles. Mais si les croyants voient la puissance transformatrice de Dieu en nous, si les non-croyants, je voulais dire, voient la puissance transformatrice de Dieu en nous, ils chercheront aussi à expérimenter la même transformation pour leur propre vie. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier et toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée 1, 15 à 16. Car la grâce des dieux, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 11 à 12 et 14. Est-ce que l'amour mutuel est-il indispensable pour le chrétien? Oui, les deux plus grands commandements de la Bible sont les suivants. Il faut aimer Dieu au-dessus de toutes choses, il faut aimer le prochain comme soi-même. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus a dit que le monde saura que nous sommes ses disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres, spécialement pour les personnes qui ne méritaient pas notre amour. Comme Dieu nous a sauvés, tels que nous étions, avant notre conversion, nous aussi, nous devons aimer les autres tels qu'ils sont. Notre amour pour les autres est la preuve que l'amour de Dieu demeure en nous. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean 4, 11 à 12. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Quelles sont les marques de l'amour chrétien? Le vrai amour chrétien est sacrificiel, constant, serviable, réfléchi. Il est premièrement une action positive en faveur du prochain. L'amour chrétien dépasse les simples paroles ou émotions positives vis-à-vis des autres. Il implique des actions positives qui affirment et épanouissent les autres. L'amour chrétien est la réflexion de l'amour du Christ pour nous et en nous. En effet, sans l'amour du Christ pour nous et sans le pouvoir du Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais aimer les autres comme la Bible nous le recommande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis, pour ses amis. Jean 15-13. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13-10. Avant tout, ayant les uns les autres, les uns pour les autres plutôt, une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4, 8. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne s'évante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle le croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Qu'est-ce que la Bible enseigne sur la vie mondaine? Vivre d'une manière mondaine, c'est vivre suivant les standards et les désirs du monde pécheur, au lieu de vivre selon la volonté de Dieu telle qu'elle est décrite dans la Bible. Tous ceux qui vivent selon les désirs du monde ne peuvent être amis de Dieu, car celui qui aime le monde se fait lui-même ennemi de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. 1 Jean chapitre 2, 15 à 16. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, 11 à 12. Adultère que vous êtes! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Quels sont les péchés au sujet duquel la Bible attire notre attention? La Bible nous avertit contre tous les péchés sans exception. Péchés de la pensée, d'attitude, des paroles et d'actions. Mais le Nouveau Testament mentionne spécifiquement certains péchés contre lesquels nous devons nous garder, le mensonge, le vol, les querelles, les altercations, les insultes, les moralités sexuelles, l'ivrognerie, la cupidité, la colère incontrôlée, l'amertume, etc., etc. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Éphésiens 4, 25 à 31, et puis 5, 3 à 5, et 17 à 18. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 1 à 5.